Trainville PM. Les chefs.
Vous ne souhaitiez pas attrister des gens.
Qu'est-ce que vous voulez avoir, vous autres, les médias? Vous voulez avoir une livre de chair, un peu de sang sur la table? C'est ça qui vous intéresse? Là? Vous voulez avoir des drames humains? C'est ça qui vous excite un peu? Vous voulez avoir des beaux articles là-dessus? Moi, je préfère parler de la compétence des gens. J'ai des gens compétents autour de la table. Pourquoi ils auraient quitté? Parce qu'ils sont compétents et plus expérimentés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, on garde des gens expérimentés autour de la table et on amène des gens jeunes avec des responsabilités majeures à la fois. Alors, si c'est un concours de démotion, je ne joue pas ce jeu-là.
Avec Antoine Robitaille et Alec Castonguay.
Vous voulez avoir une livre de chair, un peu de sang sur la table? C'est ça qui vous intéresse?
Oh boy, ça s'appelle un pétage de coche.
Sérieux?
Du premier ministre Couillard, Philippe. C'est Antoine que vous venez d'entendre. Vous reconnaissez sa voix caractéristique, Antoine Robitaille.
À l'approche de l'Halloween, on parle de sang et de sang sur les murs et de livres de chair.
Oui, Antoine, laisse-moi finir de te présenter correctement. Chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal. Et il y a l'autre larron, Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité. Bonjour, Alec.
Bonjour, bonjour à vous deux.
Alors là, Antoine, qu'est-ce que vous avez bien pu faire à notre premier ministre?
C'est Marco Belair-Cyrino du Devoir qui a piqué le premier ministre en disant: vous n'avez exclu qu'une seule personne.
OK.
Et là, ça a vraiment fâché Philippe Couillard, qui ça était fâché. Oui. D'ailleurs, ce matin, dans son entourage, on m'a raconté là, des réactions à son remaniement. Il était assez fier de son remaniement. Puis là, il a entendu les commentaires. Puis, manque d'audace. On a gardé trop de monde. On n'a pas exclu. Hier, là, on entendait notamment Mario Dumont qui disait: voyons, un Jean Charest n'aurait jamais fait ça. Congédier des laisseurs, des valets qui n'ont pas très bien performé. Alors là, le premier ministre, ce matin, a voulu répondre à ça en évoquant Shakespeare, quand même. Oh. La livre de chair, je tiens à le dire, c'est un clin d'œil au Marchand de Venise, où il y a un personnage qui emprunte de l'argent à un certain Shylock. Et certain de pouvoir rembourser cet argent, il signe un contrat où il autorise son créancier à lui prélever une livre de chair.
Alors, s'il ne rembourse pas.
S'il ne rembourse pas, évidemment.
OK. Et donc, dans ce cas-ci, ce serait la livre de chair de qui qu'on prélèverait?
Mais je ne sais pas.
L'histoire ne le dit pas.
Non, c'est ça. Il y en a qui en ont marre des métaphores sanglantes et violentes du premier ministre.
Ah oui, qui?
La coalition Avenir Québec. Rappelle que quand même, récemment, il avait dit que Philippe Couillard avait dit que François Legault, et là, j'ouvre les guillemets, s'il y a une fracture dans notre société, M. Legault veut y mettre un couteau et le tourner pour la rendre encore plus douloureuse.
Oh!
Tu te souviens de ça?
Ben oui.
C'était à propos du débat sur le niqab et la burqa.
Ben oui, ben oui.
D'autres sur Twitter ont rappelé la métaphore de Rita DeSantis.
Ah, oui, mais celle-là, elle est vraiment malheureuse. Pas sûr qu'on veut. On veut-tu vraiment la répéter, celle-là?
Non. OK, correct. C'est l'Halloween, tu sais, qui s'en vient.
Ouais, mais elle avait parlé quand même de.
C'était une expression anglophone qui passait mal à la traduction.
Ouais. Elle faisait référence, mettons, à un professeur, dont elle se serait occupée personnellement.
Toute personne qui parlerait à un enfant comme elle m'avait parlé devait être tuée, massacrée et jetée je ne sais où.
Oui, ça a été le début de la fin de sa carrière ministérielle, cette déclaration-là, d'ailleurs.
Je me souviens aussi que. Je me souviens de M. Couillard qui avait parler de la disposition de dérogation qui existe dans la Constitution canadienne comme d'une bombe nucléaire. Donc, c'est ça. C'est des images fortes. Et le premier ministre en use souvent. Et aujourd'hui, il l'a fait parce qu'il en a marre des rumeurs. Parlons des rumeurs.
Ben oui, vas-y, oui.
Sur le fait qu'il y a plusieurs personnes d'expérience dans son cabinet qui auraient refusé le ministère des Transports.
Et c'est pour ça qu'on se serait retrouvé avec
un néophyte
de 35 ans qui n'a jamais exercé quelques responsabilités ministérielles, André Fortin,
dans les entourages, dans les officines, on nous dit « c'est pas compliqué, il y a toujours eu juste un seul candidat parce qu'il fallait délester Laurent Lessard ». Puis le candidat, c'était André Fortin. Et là, dans le fond, on nous explique que vous êtes jamais content. Quand on monte des jeunes dans des places, dans des positions importantes, là, vous chialez, vous dites, ça se peut pas que ça soit notre premier choix. Et si on avait fait un remaniement avec des jeunes dans des positions non importantes, ben là, vous auriez dit, c'est ça, c'est du maquillage de jeunesse.
Juvénile.
Non, là, on lui a donné Et je pense que c'est une bonne argumentation.
Je suis d'accord, oui. C'est une bonne argumentation.
Tout le monde dit André Fortin, c'est un néophyte, tout ça. Mmh. Mais c'est quand même un gars qui, comme l'a dit le premier ministre, qui a les idées organisées. Comment il a dit ça déjà? Ça voulait dire qu'il était intelligent. Mmh. Puis ses interventions, c'est vrai, étaient bien faites en commission, notamment.
Ah,
il y a
oui.
certains passés au transport. En tout cas, il a été... adjoint de Jean Lapierre.
Oui. Et Pierre Moreau a réagi assez...
Pierre Moreau, hier, on lui avait posé la question parce que déjà, la rumeur circulait hier. Oui.
Qu'il avait refusé le trésor. Qu'il avait refusé le trésor, oui.
Qu'il avait refusé non pas le trésor, mais les transports.
Oui, voilà.
Et on peut écouter Pierre Moreau là-dessus.
Que vous avez dit non au transport, c'est ce qu'on a vu dans certains journaux. Non, vous n'avez pas dit. Est-ce que c'est une promotion pour vous, la ressource naturelle?
C'est difficile d'évaluer. Moi, je regarde pas ça comme ça. Moi, je trouve que c'est un déplacement. Je vois pas. Puis, je le répète là à vous parce que j'ai dû le dire à plusieurs reprises. J'étais très heureux au trésor.
Ouais, OK.
Pour ce qui est des jeunes, le premier ministre dit qu'il a fait confiance aux jeunes. On peut l'écouter. Ça, c'est ce
matin. Nommer un ministre de 35 ans à un des ministres les plus importants du gouvernement du Québec, qui n'a jamais eu de portefeuille. Nommer une ministre qui n'a jamais eu de ministère au ministère de l'Environnement, au ministère de la Culture. On a au contraire innové beaucoup. Il y a eu de l'audace dans ce remaniement ministériel. Et il y a surtout pour moi la confiance envers la jeunesse, alors.
Non, ça lui permet de placer son message.
Puis il y a Robert Poëty qui, lui, a dit ce matin au micro de Paul Arcand qu'il aiderait M. Fortin. Écoutons-le.
Effectivement, c'est un jeune député qui, je vous dirais que je côtoie depuis quand même assez longtemps, qui est sérieux, mais oui, est-ce que cette expérience-là, la réponse, c'est non.
Ça va y prendre combien de temps, faire?
C'est sûr qu'on va travailler avec lui et qu'on va l'aider. On a déjà eu des discussions hier. Moi, je pense que les trois prochaines semaines, là, le nouveau ministre va devoir écouter des gens, faire des lectures, se faire une idée, se faire une tête, puis collaborer. Vous savez, il pourra pas réussir seul et il y aura beaucoup de gens pour travailler avec lui.
OK. Bon, mais on est content de savoir ça. Oui, tu voulais parler de racisme systémique, c'est ça?
Oui, mais le premier ministre a changé d'idée sur une affaire, clairement. C'est le secrétariat pour les Québécois anglophones qui avait été évoqué lors de la course à la direction en 2013 et qui avait été proposé même.
On n'est pas dans le racisme systémique, là.
Non, Antoine, c'est ça, hein? C'est ça. J'ai deux sujets.
Oui, voilà.
D'abord,
okay.
Le...
Parce que là, j'imagine l'auditeur qui dit c'est quoi le rapport entre le racisme systémique et le nouveau ministère sur les affaires anglophones.
Ça va.
Alors, il avait déclaré, M. Couillard...
Secrétariat pour les Québécois anglophones.
Ouais.
Il avait dit, je suis contre ça, ça va séparer les gens selon les langues, c'est pas une bonne idée, c'est divisif. Or, là-dessus, voilà ce qu'il a dit ce matin, parce que là, il a créé ça.
J'ai dit ça.
Donc,
et je me suis trompé. Je me suis trompé parce que quand j'ai rencontré les communautés de langue anglaise, notamment en région, j'ai constaté de leur part, autre plus qu'une inquiétude, un éloignement, l'impression qu'ils n'ont pas accès aux services publics comme citoyens québécois, comme ils devraient l'avoir. Et pour moi, ça m'a interpellé. Et je crois qu'il fallait corriger ça. Ça se fait de deux façons. Ça se fait par la ministre qui a été nommée, mais également par la mise en place d'un secrétariat au conseil exécutif qui va un peu concentrer un peu l'interaction entre la communauté et les différents ministères.
Okay.
Sur le racisme systémique, il a été aussi questionné là-dessus. Et là, je vais dire, moi, je comprends pas où il s'en va. On a l'impression qu'il n'y a rien qui va changer. Alors, écoutons-le, cette fameuse consultation sur le racisme systémique qui est si controversée.
Puis c'est M. Hertel qui va vous le communiquer. M. Hertel est responsable du dossier maintenant. Après, une chose est claire, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut qu'on ait cette discussion. Il faut qu'on ait ce dialogue au Québec.
Sur Internet, de quelle façon
faut ça va? Il faut que les gens puissent s'exprimer. Il faut qu'il y ait des forums publics. Il faut que les experts puissent également venir parler aux Québécois de ces questions-là. Puis il faut éviter non plus de dire qu'on pointe le doigt sur un tel ou une telle. Je vais vous donner un exemple et c'est important d'y penser de cette façon-là. Lorsqu'on a discuté au Québec de l'égalité entre les femmes et les hommes, est-ce que c'était pour faire le procès des hommes? Non. Alors, une société doit faire ce genre de débat et de conversation, et surtout arriver avec des choses concrètes. Si c'est juste raconter des problèmes, je vois pas beaucoup d'intérêt. Il va y avoir des consultations, les gens doivent s'exprimer, là.
OK, donc il va de l'avant. Et on va voir comment M.
Je trouve qu'il
n'y
a rien changé. Il nous avait dit en début de semaine, il va falloir changer ça.
Oui, ça c'était après Louis Hébert.
Passé après la défaite de Louis Hébert, là, il va falloir changer cette consultation. Bon. On sait que ça a déplu aux gens. Mais là, il y avait l'idée d'abolir les forums régionaux. Là, il semble qu'il nous dit qu'il y aura des forums. En tout cas, on verra.
Allons voir Alec. Alec, parle-nous un petit peu de ce qui se passe à la table de négociation de l'ALENA. Apparemment, l'échéancier du 1er janvier auquel tenaient et les Américains et les Mexicains qui s'en vont en élection auraient été abandonnés. Ils réalisent que le 1er janvier, c'est pas réaliste.
C'est pas réaliste. On m'a dit qu'officiellement, les négociateurs s'étaient entendus pour qu'il n'y ait plus de date butoir pour arriver à une entente de négociation sur l'ALENA. On sait qu'à la fin du mois d'août, les Américains sont arrivés à la table en disant « on veut régler ça pour le 1er janvier ». Donc, c'est pour ça que publiquement, les politiciens parlent d'essayer de trouver un accord d'ici la fin de l'année. Mais assez rapidement, à la table des négociations, entre autres parce que les Américains tardent à dévoiler leur jeu puis à aborder les litiges les plus importants. On voyait que le temps passait, on est rendu à la mi-octobre et c'est à peu près impossible de s'entendre sur tout ce qu'il reste encore sur la table avant le 1er janvier. Donc officiellement, tout le monde a enlevé la date butoir du 1er janvier des textes qui circulaient là, depuis maintenant un mois et demi. Et on dit qu'il n'y a plus de date butoir. On m'a indiqué qu'il n'y avait plus rien d'inscrit en termes de date. Il faut qu'on s'entende avant, par exemple, le 1er janvier. Donc, ça veut dire qu'on va laisser place à une négociation qui pourrait être un petit peu plus longue. On m'explique que le crunch des négociations, là, permettez-moi l'expression, phase critique, pour que mon oncle 101, Antoine, soit content. Oui. Alors, que la phase critique sera probablement autour du mois de mars. Donc, qu'on va arriver là avec les derniers points les plus litigieux où les politiciens vont devoir trancher. Si, évidemment, on se rend jusque-là, parce qu'il y a toujours une incertitude, est-ce que Donald Trump va finalement tirer la plug de l'ALENA plus tôt, là. Mais bon, si on se rend jusque-là, ça serait donc en mars qu'on va avoir les négociations les plus ardues. On va évidemment commencer avant ça à parler des points les plus litigieux, mais généralement, on garde pour la fin ce qui accroche, et ce serait donc en mars. Pourquoi en mars? Parce que on va se rapprocher dangereusement de l'élection au Mexique qui va avoir lieu le 1er juillet, mais la campagne électorale devrait démarrer à la fin du mois de mai. Si on n'est pas capable de s'entendre en mars ou en avril, on pense que l'élection au Mexique va être trop rapprochée et que donc les Mexicains vont tout simplement laisser tomber parce qu'on ne sera plus capable d'avoir le mandat politique nécessaire pour négocier quelque chose aussi près d'une élection. Donc, tout arrêterait. Et surtout que Enrique Peña Nieto, qui est le président mexicain, ne peut pas se représenter à l'élection. Et son parti est très loin dans les sondages. Celui qui est premier dans les sondages au Mexique actuellement, c'est Manuel López Obrador, qui a fondé son parti Morena en 2014, qui est un parti très à gauche là, et qui pourrait donc prendre le pouvoir. Un parti qui est très critique de l'ALENA. Il y a eu des commentaires très durs envers l'ALENA dans le passé, M. Obrador. Donc, ça pourrait vraiment compliquer les choses donc pour les élections mexicaines. Et ensuite, on arrive au mi-mandat aux États-Unis, les élections au Congrès. Puis là, Donald Trump ne veut pas être pris à négocier pendant les élections de mi-mandat. Il veut avoir quelque chose à dire, là. Ou bien il y a eu une entente de principe conclue en mars ou en avril. Il fait campagne là-dessus, ou bien il va mettre fin à l'ALENA puis il va faire campagne là-dessus aussi. Donc, il va avoir un peu plus de temps de négociation, d'après ce que je comprends, là, mais pas énormément plus.
Ouais,
là,
moi, je pense
début de l'année 2018, il faut qu'il se passe quelque chose.
Là. J'ai jamais cru à l'échéance du 1er janvier, pense qu'ils sont en train de pelleter par en avant, cela étant dit. Là, ça ne facilitera pas les choses. On va s'arrêter parce que, parlant de l'ALENA, ça nous amène nécessairement à parler de la rencontre Trump-Trudeau qui a porté notamment sur Bombardier. On va en parler tout de suite après la pause.
Drainville PM. Les chefs.
Toujours bien de se rencontrer avec des alliés et des amis.
We have a great personal relationship. We have a tough negotiation. And it's possible we won't be able to make a deal. And it's possible that we will. Les
chefs. Avec Antoine Robitaille et Alec Castonguay.
Oui, c'était quelque chose de voir ça, Alec. Alors, de retour avec Alec et Antoine, c'était quelque chose de voir ça. T'as Trump. Et t'as Trudeau qui est assis juste à côté et Trump qui dit, écoute, ça se pourrait qu'on ait une entente, mais ça se pourrait qu'on n'ait pas d'entente finalement. Puis comment est-ce qu'il a dit ça? It's gonna be okay, ça va être correct. Là, même s'il n'y a pas d'entente, là, ça va être correct. Puis là, t'as Trudeau qui garde un peu son poker face, un petit sourire, mais qui peut pas trop réagir.
Ouais, qui doit se mordre les lèvres à l'intérieur ou la joue en se disant « Bon, encore une fois, Donald Trump qui improvise. » Parce que ça s'est passé juste avant leur rencontre. Hein. Donc, c'est pas comme si Justin Trudeau savait à quoi s'attendre. Là. C'était lors de la séance de photos au bureau ovale avant leur rencontre. Quelques journalistes ont posé des questions, puis Donald Trump a décidé d'y répondre. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'était avant leurs 10 minutes de tête-à-tête. puis ensuite, il y avait un autre 30 minutes entre les deux hommes, plus leur conseiller. Mm. Et Chrystia Freeland s'est joint à la discussion, Wilbert Ross aussi, le secrétaire au commerce. Mais donc, c'était avant que tout ça se passe. Donc, Justin Trudeau a dû être un peu surpris, lui aussi, d'entendre dire Donald Trump que tout se passerait bien, même si l'ALENA était déchirée. C'était quand même quelque chose. Puis ensuite, Donald Trump dit qu'il y a une possibilité dans sa tête d'un accord seulement à deux.
Mais oui.
Donc, on pourrait éventuellement négocier soit seulement avec les Mexicains, soit seulement avec les Canadiens. Ça aussi, c'était une nouveauté. Je peux te laisser entendre Donald Trump. Là, on a entendu un court extrait dans l'ouverture, mais voici les phrases complètes qu'il a dit aux journalistes lors de cette petite séance de photos.
We're going to be discussing NAFTA and we'll be discussing defense. But we'll see if we can do the kind of changes that we need. We have to protect our workers and in all fairness, the Prime Minister wants to protect Canada and his people also. So we'll see what happens with NAFTA. But I've been opposed to NAFTA for a long time in terms of the fairness of NAFTA. I said we'll renegotiate. And, I mean, I think Justin understands this. If we can't make a deal, it'll be terminated and that'll be fun. They're going to do well, we're going to do well. But maybe that won't be necessary. But it has to be fair to both countries. It's possible we won't be able to reach a deal with one or the other. But in the meantime, we'll make a deal with one.
Oui, c'est ça. Alors, il dit essentiellement, chacun essaie de protéger ses travailleurs. C'est normal que Justin veuille le faire pour les mm-hmm. siens. Moi, je le fais pour les miens. On va essayer de négocier à trois, mais peut-être qu'on y arrivera pas. Puis à ce moment-là, une négociation à deux ou une entente à deux serait possible.
Voilà. Et Justin Trudeau, évidemment, on le disait, sur le moment, est resté impassible, mais on l'a questionné ensuite lors du point de presse qui a suivi leur rencontre. C'était pas un point de presse commun, mais il était, Justin Trudeau, sur le balcon de l'ambassade canadienne, qui a une belle vue d'ailleurs sur le Capitole à Washington. L'ambassade canadienne est la seule ambassade qui est près du Capitole et non pas dans le quartier des ambassades. Donc, on en profite pour faire des belles images. Et donc, on a posé la question à Justin Trudeau pour dire, ben, est-ce que vous avez été surpris que finalement le président américain dise qu'il puisse y avoir une entente seulement avec vous ou seulement avec le Mexique. On peut entendre la réaction de Justin Trudeau.
L'ALENA reste la meilleure façon pour nos trois pays de faire face à la compétition dans l'économie mondiale. Et nous allons continuer de travailler de façon sérieuse sur les négociations de l'ALENA. Mais en même temps, je pense que nous reconnaissons tous que l'imprévu est toujours possible et nous devons être prêts pour tout.
Oui, et puis à ma connaissance, là, Alex, c'était la première fois que Justin Trudeau était aussi clair et aussi explicite sur la possibilité que la renégociation autour de l'ALENA échoue.
Oui, c'est vrai. Mais tu sais que c'est une possibilité, cette négociation-là bilatérale, depuis un petit moment hein, pour le Canada, c'est-à-dire que c'est la première fois publiquement que Donald Trump en parle, c'est la première fois donc que Justin Trudeau est appelé à y répondre, mais moi j'avais entendu vent au mois d'août, là, avant même la première ronde de négociation, que cette possibilité-là, elle était contemplée par les négociateurs canadiens, parce qu'on le sait, Donald Trump a été tellement virulent contre le Mexique, que c'est une possibilité qu'en cours de route, Donald Trump décide de mettre fin à l'entente pour négocier uniquement avec le Canada parce que la balance commerciale est beaucoup plus équilibrée avec le Canada. Il n'y a pas le déficit qu'on a avec les Mexicains.
Voilà. Ils ont même un petit surplus quand on inclut les services. Hein?
Exactement. Oui. Et donc, ce serait plus facile de négocier seulement avec le Canada. Pour l'instant, le Canada n'a jamais voulu aller volontairement dans cette zone de négociation-là bilatérale. Moi, j'avais posé la question à Chrystia Freeland, la ministre des Affaires étrangères, qui gère les questions de commerce avec les États-Unis, lors de la rencontre que j'ai eue avec elle à la fin du mois d'août. J'avais déjà eu vent de la possibilité qu'un jour les négociations soient scindées et que ça se transforme en Canada-États-Unis. Puis elle m'avait regardé avec un œil en voulant dire « je suis pas sûr que je peux aller là ». Fait qu'elle m'avait dit de manière assez sec et assez prudente « c'est un accord tripartite, je la cite ». Elle m'avait dit « l'ALENA, c'est un accord tripartite, alors nous allons négocier à trois ». Elle avait arrêté sa phrase-là. Je lui avais dit « oui, mais si c'est les États-Unis qui décident de commencer à négocier à deux, vous allez faire quoi ?» Puis elle m'aurait répondu « c'est un accord à trois, on peut pas négocier l'ALENA à deux ». Et là-dessus, elle a un peu raison. Ça veut dire que ça ne deviendrait plus l'ALENA.
Mais
on ne peut pas négocier à trois, puis ensuite dire « bon, mais je règle ça ». Il faudrait d'abord mettre fin à l'ALENA, ensuite commencer des négociations à deux, probablement sur la base de ce qui a déjà été discuté, mais on ne sait pas à quoi ça pourrait ressembler. On est dans une autre game totalement.
Mais Alec,
cette possibilité-là existe.
Mais Alec, il faut toujours rappeler que si jamais l'ALENA échouait, si jamais l'ALENA était démantelée parce que les États-Unis s'en retirent, faut jamais oublier que l'entente de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, qui a été conclue dans les années 80, elle existe toujours. Et j'ai revérifié hier soir, elle est toujours en vigueur.
Elle est uniquement suspendue.
Ouais, ouais. C'est ça. Alors, elle se remettrait, ce que je comprends, c'est qu'elle redeviendrait active.
Oui.
Et là, ce serait, dans le fond, on pourrait partir de l'entente négociée entre Reagan et Mulroney et la moderniser, renégocier. Mais l'entente Canada-États-Unis, l'entente de libre-échange des années 80, elle est toujours en vigueur.
Ouais, c'est l'espèce de filet de sécurité là qu'il y a dans cette négociation-là. Mais évidemment, elle est quand même assez désuète parce qu'en 89, il manquait quand même pas mal d'éléments.
C'est ça.
Mais oui, c'est vrai qu'il y a une certaine base sur laquelle travailler. Mais il y a une autre possibilité aussi. Il y a une possibilité que Donald Trump, on le sait, il est imprévisible. Il aime négocier. Il aime être justement quelqu'un qui est en position de force. Ça se peut aussi qu'elle lâche ça hier pour jeter un froid entre le Canada et le Mexique. Parce qu'à la table de négociation, ça s'entend assez bien, hein, les négociateurs canadiens et mexicains. On garde la ligne. Il y a beaucoup de négociations en parallèle, d'ententes en parallèle avant d'aller à la table tripartite. Bref, le Canada et le Mexique sont comme la ronde en foire là-dedans. Puis la façon dont Donald Trump, là, vient de lancer une espèce d'avertissement, j'ai l'impression qu'il veut mettre un peu de méfiance entre les Canadiens et les Mexicains en disant « Ben là, vous voyez, moi, je peux décider quand je veux de prendre l'un ou l'autre seulement. Donc, faites attention à ce que vous faites à la table comme front commun. »
Diviser pour régner.
Diviser pour régner, c'est tout à fait possible aussi.
D'autant plus que Trudeau s'en va au Mexique, le rencontrer.
Exactement. Aujourd'hui, Enrique Peña Nieto, le président mexicain, et Justin Trudeau vont se rencontrer à Mexico. Donc, un peu plus tard cet après-midi, il va y avoir une conférence de presse conjointe d'ailleurs. Ça va être certainement au menu de leur discussion là, pour essayer de savoir bon qu'est-ce qu'ils font avec ça. Parce que moi, je suis persuadé qu'en bout de piste, si Donald Trump est sérieux, que c'est pas une tactique de négociation, le Canada va lâcher le Mexique à un moment donné. C'est trop important comme relation avec les États-Unis pour dire, bon, on la garde à tout prix, cette haleine-là. Si les Américains sont sérieux puis qu'ils se mettent à lâcher le Mexique pour négocier avec le Canada, je pense que le Canada va dire, ben, on fera une entente bilatérale avec le Mexique plus tard. On négociera un libre-échange, nous autres, ensemble. Mais en attendant, j'ai besoin de me concentrer sur le voisin américain. Moi, je pense que c'est ce qui adviendrait probablement de cet État-là.
C'est bien possible. Il nous reste 1:30, mon cher Antoine, pour que sur tu puisses nous parler.
Philippe Couillard a dit qu'il y a un mot sur l'ALENA, peut-être avant qu'on aborde.
Résume-nous ce qu'il a dit, parce que je veux vraiment t'entendre sur Pierre Moreau et les ressources naturelles.
Il disait qu'il fallait finalement avoir un règlement là-dessus, puis qu'il était inquiet. Bon.
OK, bon.
Je vais vite sur l'autre sujet.
C'est correct, parce que Pierre Moreau et les ressources naturelles, je veux t'entendre. Parce
c'est intéressant. Hier, il y a des gens qui ont dit Gaspésie, ressources naturelles, il y a peut-être un rapport, mais Pierre Moreau et Gaspésie, il me semble qu'il n'y a pas de rapport. C'est un député de Montréal. D'ailleurs, il y a beaucoup de députés de Montréal qui sont responsables de régions. Ça a été souligné dans le remaniement.
Député de
Châteauguay. Mais que pense...
Châteauguay, Pierre Moreau.
Hein? Ben oui, c'est ça.
C'est la grande région de Montréal. Oui, voilà. Exactement.
La CMM, mettons.
Oui.
Les ressources naturelles, c'est problématique en Gaspésie. On se souvient que cet été, il y a un groupe d'activistes anti-pétrole qui avait bloqué l'accès au puits Galt numéro 4 de Junex. Donc, il y a des tensions. Il y a des gens qui sont farouchement pour l'exploitation et l'exploration pétrolière en Gaspésie. D'autres sont contre. Donc, M. Moreau va beaucoup s'occuper de ça. Or, il avait une position là-dessus pendant la course à la direction en 2013. Et là, la question que je me pose, c'est a-t-il changé d'idée comme Philippe Couillard a changé d'idée sur les anglophones et aussi...
Alors, dis-nous quelle était cette position.
Philippe Couillard a changé d'idée sur le pétrole. Il était favorable à l'exploration pétrolière et on peut les écouter les deux dans un débat en 2013.
Peut-on vraiment tourner le dos à une autre occasion d'agir contre notre dette grâce aux redevances des hydrocarbures que nous pourrions dégager avec le gaz de schiste et le pétrole? Pourquoi aller acheter à l'étranger des ressources alors que nous en possédons, nous.
Hein?
Oui.
OK, mais un peu, le Couillard, c'est intéressant parce qu'écoute, il plaidait fort pour les redevances pétrolières et gazières, hein?
Absolument. Puis Pierre Moreau, il dit « Les régions seraient plus enclines à l'exploitation et l'exploration pétrolière si elles pouvaient toucher les redevances et s'enrichir. »
Alors là, tu lui as posé la question s'il y avait changé
d'idée. Non, il n'a pas encore posé la question. Oh! Je te rappelle ça. Je te dis que aussi sur les éoliennes, oui. M. Moreau jugeait que la Société d'État Hydro-Québec devait faire preuve de plus de transparence dans l'évaluation de sa production d'énergie éolienne. On sait qu'il a parlé aussi de solaire hier, mais là, il va falloir le relancer là-dessus.
Ah, oui.
Et sur l'eau, il avait parlé à cette époque de tirer plus de bénéfices avec une approche contrôlée de la vente de l'eau, notamment les Américains en ont besoin.
Oh boy.
Donc, c'est trois sujets, je pense que comme ministre des Ressources naturelles, il va devoir se repositionner parce qu'en 2013, il y avait des positions sans doute différentes de celles du gouvernement d'aujourd'hui.
À vérifier. Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci. Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine d'actualité.
À
merci
demain,
à toi. À demain à tous les deux. Dans un instant, l'actualité internationale avec Loïc Tassé.